Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06 de retour dans les grandes gueules du sport. Très heureux d'être avec vous jusqu'à midi, comme tous les samedis et les dimanches, avec Simon Dutin, Denis Charvet, Sarah Pitkowski, David Douillet. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, rassurez-vous, tout est déjà disponible en podcast. On a parlé du Paris Saint-Germain, la victoire contre City. Est-ce que ça change votre regard? On a parlé de la lourde chute d'Alexis Pinturault hier à Kitzbühel. Également du 15 de France en manque de titre à une semaine du début du tournoi Destination. Est-ce que c'est un problème, ce manque de palmarès, ou encore des huées, des sifflets hier à l'encontre de Novak Djokovic? Bref, vous pouvez tranquillement aller réécouter tout ça en podcast. Dans quelques instants, le sport français vent debout contre la baisse du budget des sports en 2025. Volonté du gouvernement, mais pas forcément du président de la République. Cette baisse est-elle incompréhensible? Vous n'êtes pas d'accord, mais GG. 11h30, le dossier, la folie évidemment, Wembanyama à Paris. Est-elle passagère ou durable? On se posera la question. Et puis 11h45, le débat caché pour l'instant, mais GG, vous ne savez rien. Et pourtant, dans moins de 40 minutes, il va falloir débattre sur un sujet. D'après vous, la sensation, c'est quoi le sujet, Simon?
Je sais pas, il y a eu ce tragique accident là de la jeune cycliste italienne, oui, Sarah Pfeiffer, qui est décédée en s'entraînant. Et on en revient toujours à l'éternel débat. Les cyclistes sont obligés de s'entraîner sur les routes qui sont pas fermé. Alors je sais pas, peut-être quelque chose autour de ça. Faut-il mieux protéger les cyclistes dans leurs entraînements, même si j'ai pas vraiment de solution. Mais voilà.
Un débat caché important, un débat en tout cas important et pas très gai, hein. Faut le dire tout de suite, mais bon, c'est aussi l'actualité sportive, malheureusement. Sarah Pitkowski.
Bah moi je pense que j'ai trouvé.
Ah, vas-y. Ouais.
Faut-il interdire les casques tennis qui rentrent sur le court?
C'est pas possible. Alors, si vous voulez nous rejoindre, c'est déjà la proposition de Sarah qui a perdu lors des GG contre-attaque. Ok, les casques.
Non, à mon avis.
Tu fais une fixette sur les casques et les joueurs de tennis qui mettent ça.
Souvent, je fais une fixette sur les choses. Non, il y a peut-être quelque chose autour du Vendée Globe. On est en train de voir une grande partie une grande partie de la flotte des skippers arriver. Il y a peut-être quelque chose que tu peux nous trouver comme petite phrase qui aurait été dite.
Pourquoi pas? C'est une proposition. David Douillet.
Moi aussi, des petits problèmes de sécurité dans le monde des rallyes. Sébastien Ogier s'est fait vraiment peur avec des fumigènes et des spectateurs, un peu trop enthousiastes. Donc, la sécurité sur les rallyes, c'est toujours le vrai problème, un grand problème.
Mais Denis, ça sera pas ça. Moi,
pourquoi pas?
Je plaisante, David. C'est pour t'envoyer le pic. C'est gratuit. Alors, moi, te connaissant un peu, je me demande si c'est pas le rugby avec la possible titularisation de Radou en seconde ligne.
Oui, t'as raison.
Pour le match du tournoi de Destination. Pourquoi tu penses que Jégou et Radou, on en a beaucoup parlé dans cette émission?
Mais parce que je te connais.
Oui, on en parle à peu près toutes les semaines. Hein,
oui, mais là
c'est possible.
Mais là, il y a une titularisation.
Oui.
Okay. Eh ben, ce sera pas ça.
Ouais, non, c'est vrai.
Réponse à 11h45 pour le débat caché. Je sais, chers auditeurs, que vous aimez cette séquence. N'hésitez pas à me proposer vos petites propositions là sur le direct studio pour voir ce que vous en pensez.
Est-ce que dans tout ce qu'on a dit, il y est le débat caché?
Est-ce que tu veux que je sois franc et honnête?
Non, il y est pas, non.
Pas du tout.
Il y est pas.
Oui,
voilà.
Michel Audiard a dit un jour 2 milliards d'impôts. J'appelle plus ça du budget. J'appelle ça une attaque à main armée.
RMC. Il a dit aussi les cons, ça aussi.
Les grandes gueules du sport. Passe la seconde.
Un sujet qui est au cœur du projet depuis 10 ans. L'héritage. L'héritage utile, durable que ces jeux doivent laisser à notre société. L'héritage, il va être d'abord matériel et très concret.
Tête de menteur.
Rôle d'accélérateur que doivent jouer les jeux.
J'ai envie de te dire menteur.
Le monde du sport s'indigne, hein, vous le savez, depuis la semaine dernière, contre une baisse supplémentaire dans son budget pour 2025, dans cette période de chasse aux économies.
L'héritage des jeux, c'est aussi le déploiement des 30 minutes d'activité physique quotidienne auprès de notre jeunesse.
Totalement faux, pas du tout ça, non.
C'est un symbole puissant de ce rôle d'accélérateur que doivent jouer les jeux dans l'accessibilité et dans l'inclusivité de notre société.
Vous avez raison, Monsieur le Président, je suis un menteur.
On a aussi à cœur de changer le regard sur le handicap et de promouvoir dans le domaine sportif la pratique des parasports.
Là, je pense que les cacahuètes, c'est bien pour commencer, mais là, maintenant, on monte progressivement dans un festin. Des petits sauts, des petits sauts.
Le festin va attendre. Hein. La France mérite mieux. Voici le titre de la tribune publiée cette semaine dans les colonnes du journal L'Équipe pour protester, vous le savez, contre la diminution du budget des sports dans le projet loi de finances 2025. 425 athlètes français lancent un appel à Emmanuel Macron et François Bayrou, leur demandant de renoncer à cette coupe drastique afin d'éviter un désastre annoncé. C'est 33% du budget des sports qui pourrait disparaître par rapport à 2024. Une baisse légitime pour le gouvernement, car ce budget 2024 avait été augmenté en raison des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Ça vous fait déjà rire, la musique qui fout les jetons. Ah oui. Cette question, c'est l'argument du gouvernement en tout cas. Moi je vous le donne.
Qu'est-ce qu'on entend pas, mais qu'est-ce qu'on entend pas ?
La baisse du budget des sports, est-ce incompréhensible ? Oui ou non ? Sarah Pitkowski.
Mais bien sûr qu'elle l'est.
Oui, elle est incompréhensible.
Oui.
David Douillet.
Totalement incompréhensible.
Ok, oui. Simon Dutin.
Non.
Non.
Oui.
Denis Charvet, c'est oui également. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Morgane Maury. Bonjour Morgane.
Bonjour les GG, bonjour à tous.
Je le disais, depuis plusieurs jours, le sport français se mobilise comme rarement à coup de communiqués et de tribunes.
Marie Barsac, la nouvelle ministre des Sports, fait déjà le grand écart entre le gouvernement dont elle est solidaire et le monde du sport à qui elle doit la loyauté. Il y a quelques mois, elle était la patronne de l'héritage de Paris 2024. Aujourd'hui, le sport français se demande si l'État n'est pas un mauvais notaire. David Lapartien, le patron du comité olympique et sportif français, a dit non mercredi soir lors des vœux.
Un certain nombre d'acteurs pensent que le mouvement sportif n'est pas tout à fait comme nos amis de la culture, ça n'allongera pas devant le train, et donc on peut continuer de nous tondre sans raison. Eh bien, c'est ça qu'on a voulu, avec force, sans doute aujourd'hui, dénoncer. C'est que non, nous n'acceptons pas que sans arrêt, on s'acharne en fait sur le sport par des gens qui visiblement sont loin d'en connaître l'ensemble des bienfaits. Et je ne peux que les inciter à rejoindre nos clubs.
Un coup de rabot de 33% par rapport au budget 2024 de 900 millions. À 600 millions. Oui, des investissements exceptionnels pour les JO ne sont plus là. À ceci s'ajoute une coupe de 100 millions d'euros. Dans un rapport préparatoire, le Sénat évoque la fin de la parenthèse enchantée de Paris 2024. Marie Barsac.
Non, mais il faut comprendre dans la situation économique dans laquelle nous sommes. Tout le monde doit faire un effort. Mais je crois que les sportifs sont capables de comprendre qu'on doit faire un effort.
Plusieurs présidents de fédérations ont dégainé un carton rouge à l'État, puis 425 sportifs, avec parmi eux Léon Marchand ou encore Teddy Riner, ont rédigé une tribune intitulée « La France mérite mieux ». Emmanuel Macron leur a donné raison dans leur combat. Je cite « Il faut tenir nos engagements et nos moyens pour nos sportifs et pour que l'héritage des Jeux bénéficie à tous ». Fin de citation. Mercredi soir, 20 présidents de fédé ont quitté la salle au CNOSF avant la prise de parole de la ministre.
La position que moi je défends, c'est une position qui est partagée avec le mouvement sportif, qui est celle de s'en tenir finalement à la mouture budgétaire du gouvernement Barnier. L'effort supplémentaire qui est demandé est trop conséquent au regard de ce que peut proposer le sport comme effort.
Le désengagement de l'État s'ajoute aux baisses des aides des collectivités territoriales. Face à un afflux de nouveaux licenciés, les clubs pourront-ils les accueillir dans de bonnes conditions ? L'Angleterre avait fait la même chose après les Jeux de Londres. Alexis Anquincan, double champion paralympique de paratriathlon.
Effectivement, c'est un sabotage quelques mois plus tard de très vite refermer la page de Paris 2024. Donc voilà, il y a beaucoup de petits champions qui ont rêvé cet été et malheureusement qui vont se retrouver face à une réalité où on ne pourra pas les accueillir.
Matignon et Bercy détiennent la solution avant les derniers arbitrages jeudi. Les sportifs sont plutôt optimistes et la ministre des Comptes publics a ouvert la porte à une diminution moindre. Les questions d'héritage, c'est rarement simple.
Merci beaucoup Morgane Maury pour ces précisions et ce reportage très intéressant. La baisse du budget des sports, est-ce incompréhensible ? Venez partager avec nous ce débat au 32-16. David Douillet, pourquoi oui, c'est incompréhensible ?
Ben pourquoi ? Parce que le sport, c'est de l'investissement, c'est pas un coût. Et je vais même plus loin, le sport, ça fait gagner de l'argent à l'État, c'est ce qui ne comprennent pas. Je vais vous donner juste un exemple, un seul exemple. Je parle même pas d'éducation, de cohésion sociale, d'insertion, parce que tout ça, le sport, est très efficace là-dessus. Et Dieu sait si on en a besoin de la cohésion sociale en ce moment. Je vais juste vous parler de santé et d'obésité. Voilà, j'ai retrouvé un chiffre là en préparant l'émission. Est-ce que vous avez une idée du coût pour la France que coûte l'obésité chez les jeunes et les adultes? Dites-moi un chiffre.
Aucune idée, je sais pas, je dirais 5 millions.
En 2024, ça a coûté, entre les problèmes du diabète, maladies cardiovasculaires, etc., 12,7 milliards. 12,7 milliards sur le coût lié à l'obésité. Bon, alors, excusez-moi, mais s'il y a un truc dans notre société, s'il y a une discipline qui permet de lutter directement contre l'obésité, c'est bien le sport. Et là, on est en train de chipoter pour 300 millions. Mais excusez-moi, c'est de l'ordre de ridicule. Et c'est juste un exemple. C'est inadmissible que d'avoir cette lecture du coût que a les sports sur la société française. Non, c'est pas le sport ne coûte pas, il fait gagner de l'argent sur tous les niveaux. Aujourd'hui, qui éduque les enfants ? En particulier, est-ce que c'est l'école ? Réponse, je vous la laisse. Moi, je sais que le sport le fait. Est-ce que c'est la cohésion sociale ? Bon, moi, je vous la laisse aussi. En tout cas, dans un club, et quand on a une équipe, et quand tout le monde est capable, quels que soient les niveaux de vie, de pratiquer une discipline et de jouer ensemble, le sport est une solution. L'insertion, la cohésion, tout ça, c'est important. On laisse nos jeunes comme ça à l'État, dans les cités, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils font ce que les grands frères disent, et on sait comment ça se traduit, par des clashs, et aujourd'hui, des tirs à la Kalachnikov. Ça, le sport, alors, c'est pas la seule solution. Mais peut lutter contre ça. Donc quand on vient attaquer le ministère des Sports, quand on vient attaquer le sport en disant voilà, bah il faut que tout le monde passe à la moulinette, non, je dis non, c'est pas possible. On s'enlève une arme absolue pour gagner et l'avenir de nos jeunes de demain, voilà.
Ok, on sent que ce sujet, évidemment, te tient à cœur, toi.
Non,
évidemment,
mais c'est une
parole d'ancien ministre des Sports. La baisse du budget des sports, est-ce incompréhensible ? C'est notre débat et tu es assez d'accord. Sarah, mais on vous pose aussi cette question et je pense que les auditeurs qui peuvent nous appeler pourront aussi se la poser, sachant que tous les ministères vont devoir faire à un moment donné, eh bien, avec l'argent qu'il reste, eh ben, le sport ne peut pas être peut-être au-dessus de la mêlée. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de vous répondre aussi, Sarah.
Oui, c'est pour ça qu'il y a une part d'entendable sur le fait qu'il y ait une baisse de budget. C'est normal que les investissements qui ont été faits pour Paris 2024 et les sportifs de haut niveau, on les retrouve pas.
Sarah, on fait pas les Jeux de 2030, par exemple.
Non, mais bien sûr, mais j'essaie de trouver des arguments. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais comme malheureusement, il faut faire des coûts budgétaires un peu partout. On va dire que l'enveloppe dédiée aux jeux, notamment aux médailles, c'est normal qu'elle soit soustraite du budget des sports. Cependant, là, on va bien au-delà des investissements qui ont été faits pour Paris 2024. On utilise, en fait, l'argument de dire, mais les jeux, c'est terminé, c'est normal qu'on baisse, pour aller chercher encore plus, de coûts budgétaires. Mais plutôt, on est juste à un tout petit milliard, ça fait 0,2% du budget. Et je vais pas revenir sur ce qu'a dit David parce que je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que, aujourd'hui, le sport, la vision du sport, elle est totalement parcellaire, elle devrait être une colonne vertébrale d'un seul et unique ministère. Il y a un ministère, aujourd'hui, il y a un ministère qui représente la famille, le travail, la santé, la cohésion sociale. Comment le sport n'est pas la colonne vertébrale juste de ce ministère-là, parce que il est une réponse à chacun des dossiers. Et David vient de le dire. Il vient de le dire. Mais je vais même au-delà de ça, la conséquence en cascade du mouvement sportif. Je ne parle pas du sport de haut niveau. Je fais juste du sport loisir, de ce que vous avez à côté de chez vous. C'est aujourd'hui, s'il n'y a plus d'argent, les infrastructures, elles sont déjà vieillissantes. Comment fait-on pour les tenir juste en ordre de marche ? Il y a un afflux de gens, et pas uniquement de jeunes. Il y a un afflux de population qui a envie de faire du sport. Et notre modèle sportif repose sur une pyramide qui s'appelle le bénévolat. Si aujourd'hui, on tape là-dedans, dans les budgets, il n'y aura plus de bénévoles pour le sport et il y aura donc juste plus de sport, tout simplement. Parce que notre pyramide repose dessus. Et ensuite de ça, et David vient le dire, alors là, la santé, ça répond à tellement de problématiques que je ne comprends pas qu'on baisse de budget, oui, mais pas à cette hauteur-là.
Ok, pas à cette hauteur-là. On rappelle quand même.
On devrait l'augmenter, le budget.
Ah, voilà, c'est ce que demandent les sportifs et les mouvements sportifs.
On devrait l'augmenter.
Arriver à 1% du budget de l'État. Arriver à 1%, pour l'instant, on est à 0,2. Simon, pourquoi oui, c'est compréhensible ?
Parce que les mots ont un sens. Ta question, elle est formulée avec le terme incompréhensible. Donc, je dis pas que je l'encourage, je dis pas que je l'embrasse, qu'elle me fait plaisir. Je dis que je la comprends. Oui, je la comprends. On vit dans un pays endetté à un niveau historique, et ça, les faits sont là. Il y a 32 milliards à trouver, donc forcément, on va les chercher aussi dans le sport. Vous l'avez rappelé, la kermesse est terminée, les jeux sont passés, sont derrière nous. Est-ce que ça peut étonner encore qu'on s'en servent d'argument en disant ben voilà, ça a été une réussite, mais bon, il y a plus d'infrastructures à construire, que ce soit alors au niveau sportif, il y en avait peu, mais au niveau de l'hôtellerie, de l'accueil, de machin. Voilà. Je vous rappelle. Non mais laisse-moi terminer, David. On t'a écouté. Michel Barnier qui a pris la porte. Il envisageait, et je pense pas que c'était de gaieté de cœur, de supprimer 4000 postes au sein de l'éducation nationale. Qui peut dire ici que ce serait pas une catastrophe alors que notre école est déjà un carnage absolu, l'école publique. Ils vont supprimer dans le budget du sport, mais ils vont également taxer quoi ? Ils vont supprimer 630 millions d'euros du budget de la recherche, 535 millions dans le budget de l'innovation, 800 millions pour l'aide au développement. C'est un carnage à tous les étages. Il faut trouver de l'argent, il faut faire des économies, le sport, dans le sport. Comme ailleurs. Donc moi j'ai envie de croire que c'est passager, que c'est pour redresser les finances d'un État qui, faut-il le rappeler, appartient à un continent qui est en guerre, et c'est pas arrivé depuis plus d'un demi-siècle. Donc il y a un budget, évidemment tout le monde s'est rendu compte depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que les budgets de la défense, on construisait plus d'armes pour se défendre le cas éventuel, on s'est rendu compte que ça pouvait encore nous arriver. Donc ouais, on en prend aussi dans le budget du sport. Je suis d'accord avec vous, c'est pas une bonne nouvelle pour le sport. Est-ce qu'on le comprend ? Évidemment qu'on le comprend. Et on n'allait pas augmenter le budget du sport alors qu'on réduit des budgets qui, vous en conviendrez, au niveau d'un pays.
On ignore l'importance du sport sur les enfants, sur la société. C'est ça surtout. Ouais. Et comment tu peux parler comme ça ? C'est pas possible.
Mais la recherche, ça doit pas être un investissement.
Ça prouve bien.
On n'a jamais dit ça.
C'est comme si vous ne le compreniez pas.
Ça prouve bien, et ça confirme, et c'est ce que je pense depuis toujours, qu'on est dans un pays où on n'aime pas le sport. On est dans un pays où il y a des sportifs qui aiment le sport, mais au niveau de l'État, on n'aime pas le sport, on aime bien être sur la photo, on aime bien être à côté du champion.
Ça, c'est sûr.
Et puis après, eh bien basta, il n'y a plus rien. Mais c'est une honte de baisser le budget du sport quand on sait l'importance. Il y a David, je ne vais pas redire tout ce que David a dit ou Sarah, mais pour les enfants, c'est
fondamental. Ça a l'impression que le gouvernement prend le sport comme juste les médailles.
Mais
les
on s'en fout. Alors que moi, j'ai une stat là c'est le marché sportif en pleine expansion, c'est 30% de la croissance du marché, augmentation constante depuis 3 ans le monde du sport. C'est-à-dire les sportifs, si tu vois, aujourd'hui, ça a pris une dimension incroyable. Et comment ne peut pas arriver à surfer sur la réussite et le succès des JO ? C'est un truc de fou. Mais surtout, là où ça va être terrible, c'est sur les infrastructures. C'est-à-dire qu'un gamin aujourd'hui qui n'est pas forcément dans un club ou qui n'a pas accès à du sport, comment il fait ? Comment il va faire ? On marche sur la tête.
Okay.
On marche sur la tête.
Hervé nous appelle au 32-16, mais juste avant, David, tu peux répondre.
Non, mais pour revenir sur ce que disait Simon, le problème, c'est que, tu vois, imaginons que la France soit une entreprise, et c'est une entreprise, elle est en déficit, c'est clair. Quand tu as une entreprise en déficit, je peux t'assurer que pour la redresser, il ne s'agit pas de saupoudrer, de resserrer les vis dans tous les domaines.
Il faut faire des arbitrages.
Et donc, tu prenais l'exemple de la recherche. Mais bien sûr, de la recherche, il faut investir pour demain. Le sport, il faut investir pour demain. Parce que c'est quelque chose qui rapporte de l'argent, qui fait économiser de l'argent. Je peux vous assurer qu'il y a des branches mortes dans l'État français, dans la France, qui ne servent à rien, qui coûtent des milliards. Ces objets consultatifs où il y a des gens qui sont recyclés pour donner des avis dont tout le monde se fout et faire des rapports dont tout le monde se fout, ça coûte des milliards. C'est là qu'il faut taper, sur les trucs qui servent à rien, mais pas le sport, pas la recherche, tu as raison, et pas dans d'autres domaines qui vont faire que l'entreprise française va se remettre sur les rails. Là, on a affaire à des gens qui veulent satisfaire tout le monde politiquement. Alors, on en prend un coup à droite. Mais il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de long terme dans ces décisions.
Enfin, moi, ce que j'ai simplement voulu rappeler, c'est que, historiquement, dès qu'il y a des économies à faire, c'est dans la culture qu'on va taper, dans le sport qu'on va taper, dans la recherche qu'on réduit la voilure.
Là où il faut pas.
Dans les services publics. Je veux dire, personne ne tombe de l'échelle en découvrant ça. Non, et malheureusement, le sport en fait les frais, mais au même titre que d'autres secteurs qui, eux aussi, mériteraient qu'on investisse.
Il y a d'autres secteurs qui méritent d'être protégés, okay. Je suis d'accord.
Hervé nous appelle au 32-16. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Et meilleur vœu, il est encore temps de...
Oui, on n'est que le 25 janvier, on peut encore y aller. La baisse du budget des sports, est-ce que c'est incompréhensible pour toi, cher Hervé ?
Mais non, mais David a raison, sauf que malheureusement, je vais retourner l'argument de David contre lui un tout petit peu, le saupoudrage. On est bien d'accord, David, il faut effectivement, c'est la pire des solutions, je le rejoins, mais il faut s'appliquer aussi à la publique des sports, à la dynamique du sport. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin, est-ce qu'on a les moyens, aujourd'hui, de saupoudrer également dans le sport? C'est-à-dire, il y a peut-être des fédérations, il y a peut-être des sports que l'on peut alterner tous les 2 ans, 3 ans, etc., plutôt que de faire un saupoudrage un peu ridicule.
Pense aux enfants, c'est pas possible ce que tu dis.
Non, mais justement, moi, il y a deux types de sports, David. On a le sport de masse qui est effectivement là-dessus, et puis où on a la jeunesse qui va sortir, etc. Et là, c'est pas négociable, je suis d'accord avec vous. Par contre, David, on peut peut-être aussi chercher de nouveaux méthodes de financement, parce qu'on est dans une situation extraordinaire. Et donc aujourd'hui, comment font les étrangers? On vient solliciter le privé, il y a des partenariats publics, privés, etc., qui se mettent en place.
Le privé, ils sont déjà à l'os, ils sont déjà surimposés, on est le pays au monde, il y a plus d'impôts.
On va pas jusqu'au bout de la démarche, David, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait faire créer par les municipalités et financé par les entreprises qui ont une gestion de 30 ans derrière, des parcs, des stades, enfin, etc. Il y a peut-être d'autres moyens, parce que si on ne veut pas bouger et si la situation ne bouge pas, je crains, on est là-dessus. Je vois de l'athlétisme aujourd'hui, si on fait un truc débile, et je le comprends, mais effectivement, on vient l'investissement par rapport aux médailles rapportées, voilà, il y a aussi peut-être du saupoudrage à éviter, peut-être à mettre dans les fédérations et réorganiser tout ça en trouvant des nouveaux financements.
Je vais te dire un truc, je vais te donner un chiffre. En 2011, et on est en 2024, On aurait eu besoin d'investir, de remettre à niveau, juste pour remettre à niveau, je dis pas de créer, de retaper pour un montant de 11 milliards l'ensemble des infrastructures sportives qui permettaient, ne serait-ce que d'avoir des créneaux pour que nos associations puissent tourner à plein. Tu te rends compte? Ces 15 milliards, si on les traduit en termes de santé, faisaient économiser sur 30 ans 85 milliards. Tu vois? Et on le fait pas.
Oui, c'est pour ça que moi je parlais d'une vision. Il n'y a aucune vision pour la place du sport dans une politique globale de notre pays.
Alors, une vision à court terme pour éponger les dettes.
Il y a un mensonge, c'est-à-dire qu'on nous a vendu l'héritage des Jeux Olympiques.
Oui, il n'y a aucun héritage.
Ça a été l'argument pour lequel on a été choisi en tant que ville et comme pays.
On a dépensé des milliards.
Voilà. Et donc, on ne tient pas les engagements. Voilà.
Les héritages, quand t'as le droit de le refuser, c'est chez le notaire l'héritage. Et là, on le refuse. Voilà.
Ok, on va clore ce débat et on en reparlera, c'est sûr, dans cette émission. Vous pouvez continuer la discussion via le Direct Studio, nous appeler au 32-16. Évidemment, c'est un sujet extrêmement important pour un domaine que nous aimons tous, les GG du sport, forcément. On vous parle de sport dans cette émission. Le dossier des GG dans quelques instants, on va parler de la folie Wemby à Paris cette semaine. Est-ce qu'elle est durable ou passagère? À tout de suite sur RMC, un reportage à suivre.
Quand ça change. Faut jamais se laisser démonter.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Jean-Christophe Drouet.
Avec Simon Dutin, David Douillet, qui nous citait Audiard tout à l'heure, Denis Charvet, Sarah Pitkowski. Dans 10 minutes, le débat caché, restez bien avec nous. Je sais que ça va vous plaire, les GG, forcément. Si ça plaît aux GG, ça va vous plaire. Et chers auditeurs, votre débat caché tous les samedis et dimanches à 11h45. Avant le dossier des GG, de parler de Victor Wembanyama dans quelques instants, nous allons faire un tour de nos directs. Tout d'abord, l'Open d'Australie en direct de Melbourne, Eric Salio. Cette finale extrêmement serrée entre Sabalenka et Keys, Eric.
Ah oui, absolument. 4 jeux partout dans la 3e manche et grâce à Julien Richard qui suit l'actualité de Léo Marchand, je peux vous affirmer que Léo Marchand est aux premières loges. Il est dans une loge assez coûteuse, on va dire. Et donc, je pense qu'il se régale. On sait qu'il est en stage du côté de Brisbane. Donc, il a fait un petit saut de puce pour venir voir la finale ici à Melbourne.
Ok, c'est extrêmement serré. Et évidemment, on va te retrouver dans quelques instants pour le moment décisif. 4 partout dans la 3e manche. Également, la descente de Kingsbull. Ça vient de partir avec Léna Marjac, notre envoyé spécial. Rebonjour Léna.
Rebonjour à tous. Oui, c'est parti il y a quelques instants. 2 dosseurs se sont élancés et c'est pour l'instant un Autrichien qui va prendre la tête de cette descente mythique de Kitzbühel sur cette piste de la Strive, piste évidemment très exigeante. Et on aura 7 Français au départ aujourd'hui avec d'abord Mathieu Bellet, dosseur numéro 3. Il va prendre le départ dans quelques secondes. Et derrière, on retrouvera Nils Allègre, Maxence Musaton, Adrien Théo, Nils Alphand, Ken Caillot et Sam Alphand en espérant évidemment que ces 7 français, eh bien, restent sur leur ski aujourd'hui parce qu'on le rappelle, hier, on a eu 4 chutes, dont 2 assez graves avec Alexis Pinturo qui a subi une fracture au niveau du plateau tibial et également Florian Loriot qui a une commotion cérébrale. Donc, on espère qu'aujourd'hui, cette strife portera chance à notre équipe de France. Donc, dans quelques instants, Dossard 3, Mathieu Bellet, le premier français.
RMC, le dossier des GG.
Bonsoir Paris. Comme vous savez, c'est une immense joie, un immense plaisir de pouvoir venir jouer ici à Paris. J'ai pas envie que ce soit la dernière fois, j'ai envie que vous puissiez faire ça plus souvent. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous fassiez un maximum de bruit pour leur montrer que, si vous le voulez, les Spurs pourraient revenir à Paris dans les années à suivre. Et en échange, je vous promets de faire le maximum pour vous procurer un maximum de plaisir, de bonheur et de spectacle. Merci Paris.
La folie Wemby s'est emparée de Paris, la Wembanyama, cette Wembamania, comme on dit cette semaine à l'occasion des deux matchs NBA organisés en France. Le phénomène Victor Wembanyama a été accueilli comme une rockstar jeudi pour la première rencontre des Spurs de San Antonio. Wemby a fait le show cet après-midi à 18h, place au deuxième acte. Arnaud Valadon, notre spécialiste basket, a passé la semaine avec lui. Salut Arnaud.
Bonjour JC, bonjour les GG.
Salut Arnaud.
Je parlais de folie, c'est presque du jamais vu pour un basketteur français.
Tout commence lundi en début d'après-midi. Aussitôt arrivé en France, les Spurs vont s'entraîner à Nanterre, là où Wemby est arrivé à l'âge de 13 ans. Sous le regard de jeunes chanceux, Elsa, 16 ans, a même dû faire l'école buissonnière pour l'occasion.
J'ai séché, j'ai dit que j'avais des choses à faire. Je sais pas, j'ai séché toute la journée. Je n'ai pas très bien dormi, j'étais un peu stressée.
Mardi, c'est au Chennai que Wembanyama a inauguré 2 terrains, cofinancés avec les Spurs. Le Chennai, c'est sa ville natale. Mercredi, entraînement à Bercy, devant une 60aine d'enfants de Nanterre. Les plus jeunes sont surtout impressionnés par ses 2m23.
C'est incroyable de voir Wemby de face déjà. Il était grand. C'était un moment de joie. Je l'ai checké, j'ai parlé avec lui.
Ça fait très bizarre de le voir en grand parce que quand tu le vois sur les jeux vidéo ou à la télé, ça fait un peu bizarre. Mais là, quand tu le vois, il est vraiment très très grand.
Jeudi 20h, quelques minutes avant le match entre Indiana et San Antonio. En prenant la parole, Wembanyama a électrisé la foule. Ensuite, il a rendu une copie parfaite. 30 points, 11 rebonds, meilleur marqueur du match. Une victoire 140 à 110. Des stars comme Omar Sy, François Civil, le ballon d'or Rodri, les joueurs du PSG Hakimi et Dembélé étaient présents au bord du terrain. L'astronaute Thomas Pesquet ou encore la légende des Spurs Tony Parker. Les fans, eux, étaient aux anges.
Oh, il était incroyable, Benyama. Vraiment un truc de zinzin. Vraiment trop fort, trop bien placé. Un cerveau de fou, un corps de fou. Incroyable.
Wembanyama, lui, a pris du plaisir et savoure une semaine unique, même s'il sait que ce sera compliqué de revenir chaque année.
C'est pas mon rôle de prendre ce genre de décision, mais je pense que le public français, avec toute sa ferveur, a le pouvoir de, voilà, d'influencer la NBA, plus que moi, pour les forcer à ramener les Spurs de nouveau.
Adam Silver, le grand patron, a refusé de confirmer la venue de la NBA en 2026 à Paris. La ville est en concurrence avec Berlin et Madrid. Il a aussi dit que les Spurs ne pouvaient pas revenir tous les ans.
Et je rajoute la tournée marketing, défilé LVMH, match du PSG, PSG City dans la corbeille, et puis également interview aux 20h de TF1.
Eh oui, ça fait une semaine extrêmement chargée pour Victor Wembanyama. On en parle tout de suite dans les grandes gueules du sport, évidemment, autour de cette question. Alors, cette folie autour de Wembanyama, est-ce que c'est durable ou passager? Durable, passager. Denis Charvet.
Passager.
Simon Dutin.
Durable.
David Douillet.
Durable.
Sarah Pitkowski.
Parti pour durer.
Ok, ouais. Je vais aller voir notre copain, notre compagnon passager. Non,
mais, oui, mais passager, mais évidemment que ça peut être durable. Mais moi, je crois que le basket, c'est la NBA. Et que la NBA, c'est un problème d'exposition. S'il revient plus chaque année, ce qu'il a dit, voilà, le phénomène, c'est qu'il faut le voir. Il faut le voir, il faut le toucher presque, tu vois, et l'avoir au bout des doigts. On parle de l'équipe de France, mais l'équipe de France, je suis pas sûr qu'il soit là tout le temps non plus. On verra à l'avenir.
C'est septembre.
Oui, septembre, mais je veux dire, il faut que ce soit récurrent, quoi, voilà. Et on sait très bien que cette folie, elle est là, elle est passagère aujourd'hui parce qu'il est à Paris et qu'on veut voir le phénomène. mais que ça, je sais pas, j'ai un doute sur le fait que après cette folie se maintienne à ce niveau-là, parce qu'encore une fois on parle de folie par rapport à un phénomène qui est presque une bête de foire.
Ok, pour toi ça tient si la NBA revient tous les ans à Paris, on oui. sait à quel point c'est fragile et c'est pas sûr, c'est aussi pour ça qu'il a fait.
Et puis une dernière chose, j'ai été surpris de l'audience, parce qu'on dit qu'elle est bonne sur Canal+ en clair, c'est 800 000 à peu près.
Enfin c'est jamais un match de NBA.
Oui, mais jamais. Oui, mais c'est
Wembley. Plus l'audience de Beansport.
Ouais, oui, voilà, 200 000. Bon. Oui, mais bon,
c'est pas... t'es pas loin du million.
Bah, donc, j'avais... Mais jamais un match moi, de NBA n'avait été. Je pensais que ça serait à 2 millions. Je me suis mis à rêver, mais bon.
Ok, Simon Dutin.
Ah non seulement c'est durable, je pense que c'est même parti pour être éternel dans l'histoire du sport français, mais pas seulement. Je dirais même que c'est parti pour être durable aux États-Unis. Même chez eux.
Mais là, on parle de la France. Évidemment, si tu joues aux États-Unis, je vais te dire oui, moi.
Excuse-moi. Si ça devient l'un des meilleurs joueurs de l'NBA, t'inquiète pas.
Ça va déteindre sur la France et sur Paris.
Il a joué combien de matchs de NBA en France dans l'histoire des Spurs? Bon.
Et tu fais un match de pré-saison en 2006.
Mais attention, c'est pas la même chose. Tony Parker, c'est jamais une folie.
Pourquoi Tony Parker, c'est pas une légende du sport français.
Tu parles de la folie, je te parle du phénomène. C'est pas la même chose.
Tony Parker, il peut pas se balader tout seul dans la rue, dans les rues de Paris, sans attirer une nuée de gens. Non seulement ça va durer en France, et parce que vous avez souligné, c'est important quand même de montrer l'attachement au maillot de l'équipe nationale. Et j'ai l'impression, je parle sous le contrôle d'Arnaud, qu'il a déjà eu l'occasion de manifester son attachement à la France et au maillot de l'équipe de France. Ça va durer aux États-Unis parce que il a confirmé en fait les attentes. Il faut rappeler, quand il y a des mecs, des espoirs qui arrivent dans les ligues pro-américaines, quelle que soit leur nationalité, ils sont attendus depuis longtemps par les experts, et puis il y a ceux qui confirment et il y a ceux qui ne confirment pas. Lui, non seulement il a confirmé, mais il dépasse même les espérances, c'est-à-dire que il est d'ores et déjà un des joueurs que les médias aiment le plus, dont on a le plus de nouvelles.
Mais c'est
un baromètre important, le nombre de publications qu'il y a sur les comptes, les réseaux sociaux.
Non, mais tout le monde le sait, ça.
Mais tout le monde n'a pas ces chiffres.
Cinquième vendeur de maillots.
Alors, et après 100 matchs, ils adorent les stats, les Américains. Après 100 matchs, il a mis plus de points que des mecs comme Allen Iverson, LeBron James, Tim Duncan, Kevin Durant, Dwayne Wade. Si ça vous suffit pas, il a mis plus de paniers à 3 points que Klay Thompson, Stephen Curry, Kyrie Irving, Kevin Durant. Il a fait plus de contres que Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning, Dikembe Mutombo, Hakeem Olajuwon, Tim Duncan. Tous ces mecs sont des légendes aux États-Unis, mais pas seulement dans le monde du sport, dans le monde des gens qui ont regardé un petit peu de basket.
Et on parle
donc
de
non seulement ça va durer en France, mais ça va durer dans le monde entier et pour des décennies.
Ok, et pour des décennies, c'est ce qu'il nous dit, oui. David Douillet.
Ouais, moi j'embraye des actions parce que je suis entièrement d'accord avec lui. Il ne faut pas oublier que les jeunes générations suivent la porte qui a été ouverte par Tony. Nous on a vieilli avec Tony, les jeunes vont vieillir avec Wemby, et donc cette porte elle est ouverte, cette porte de je regarde la NBA fait partie intégrante du basket français, je suis désolé,
pas du tout.
On a des joueurs français qui partent là-bas régulièrement, les Gobert, les Diou, les Fournier, etc. voilà, donc la NBA elle est connectée maintenant à la France, très clairement, et donc le parcours de Wemby aux États-Unis sera encore plus,
mais pas du grand public, la NBA, mais non, public. Pas du tout,
du
tout.
Du grand public, mais bien sûr, du grand public sera encore plus suivi que à l'époque de Tony, parce que Tony il a ouvert cette porte, il a fallu amorcer cette pompe, elle est complètement amorcée, totalement amorcée, parce que vient de dire Simon, parce que Wemby il est en train de se désigner de par ses qualités par être un des plus grands joueurs du troisième millénaire. La vérité.
Pour que Tony Parker soit reconnu et il entre dans les foyers, il a fallu des titres. Et il a fallu aussi Eva Longoria. Enfin, je veux dire, ça a participé aussi à sa notoriété. Pour l'instant, Wemby, il n'a pas les titres.
Non, et je pense.
Et ni Eva.
Non plus. Mais je pense qu'il a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça, Simon le disait, par rapport aux stats. Mais alors après, moi, je voulais vous amener sur un autre terrain. En tout cas, s'il devient incontournable et une méga star aux États-Unis, je ne vois pas comment ça ne peut pas avoir une incidence sur les fans de NBA, forcément, mais les fans de sport français, même le public français. Moi, je voulais amener un autre argument, c'est celui du All-Star Game, qui réunit donc...
Dans un mois.
Les stars, on est bien d'accord. C'est le seul événement dans un sport où tu réunis les stars et elles sont choisies.
Les fans qui votent.
Ils seront en
plaçant. Il y a les médias qui votent, il y a les coachs et les fans qui votent. Donc en fait, c'est un trio. C'est finalement le seul événement où on choisit arbitrairement par un vote la personne qui va jouer dans cet événement-là.
Il est remplaçant.
Attends, il va être remplaçant. Mais aujourd'hui, entre l'année dernière et cette année, il a multiplié par 3 ses votes. C'est-à-dire qu'il est aux portes.
Il toque à la porte.
Ça, on le sait, il a fait une grande saison.
Non, mais on le sait. Mais ça n'était pas garanti. Il est aux portes de ce All-Star Game. Il va être remplaçant, ok. Mais il est beaucoup plus proche que les 3 autres Français de participer en tant que titulaire au All-Star Game. Et aujourd'hui, à partir du moment où il mettra les pieds au All-Star Game, titulaire,
le débat n'est pas là, c'est un phénomène bien sûr
mais,
que
mais donc mais ça, est-ce à que partir la folie du moment où il sera reconnu dans le must dans les étoiles du NBA, donc le basket de référence mondiale,
il faut qu'il gagne des titres après,
mais aujourd'hui il n'est pas dans une équipe pour gagner des titres et pourtant il a des stats,
mais il faudra qu'il gagne des titres,
oui, mais bien sûr, mais il n'a pas une équipe pour gagner des titres, il est quand même
attendu 27-28 ans, donc tu vois aussi,
donc il et donc aujourd'hui,
gagner. Je dis, il faut attendre qu'il
pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, que ce soit les stats qui le rapprochent des meilleurs joueurs, le fait qu'il soit All-Star sur le banc pour l'instant, mais quasiment sûr par ses votes l'année prochaine, pour moi, effectivement, c'est en train de monter et ça ne s'arrêtera pas.
Et ça ne s'arrêtera pas, on reparlera demain de Victor Wembanyama, on va tenter de le comparer à nos autres grands sportifs français actuels, évidemment Kylian Mbappé, évidemment Léon Marchand, et on verra s'il est de cette caste-là aujourd'hui, malgré évidemment qu'il soit exporté aux États-Unis.
Et Antoine Dupont.
Victor Wembanyama et Antoine Dupont, bien sûr.
Oui, il oublie pas.
C'est à 18h le match ce soir face aux Pacers, qui sera évidemment pour nous.
Absolument. Avec Arnaud Stephen. Valadon,
tu vas commenter cette rencontre avec Stephen Brun. Ce sera donc à 18h à suivre sur RMC. Un point à l'Open d'Australie avec toi, Eric Salio, dans cette magnifique finale d'âme.
Nadine Santis, j'en rigole parce que c'est insensé ce qu'elle fait. On a l'impression qu'elle frappe les yeux fermés, ça rentre. Elle est à 2 points de la victoire. Je dis bien 2 points de la victoire. 6-5. Dans cette troisième et dernière manche, et 0-30 sur le service de Zabalenka. Si jamais la Belarus s'en sort, on aura droit à un super tie-break. Je ne dis pas l'angoisse.
Et Sarah m'a dit qu'elle avait changé de raquette.
Absolument, c'est une belle histoire, ouais.
Mais parce que Denis l'explique pas.
Se faire clasher par Eric Salio, c'est dur quand même.
Non, pas du tout.
Elle a pris une raquette avec un cordage plus tendu. Et je t'ai dit, elle va frapper comme un âne sur les derniers jeux. Elle va tout tenter parce qu'elle a, son cordage est plus tendu pour pas prendre de risques. Elle a choisi une raquette pour prendre tous les risques.
Match point.
Ah non, mais surtout,
c'est
dingue.
C'est une fille qui était avec une marque de raquette depuis le début de sa carrière. Et elle a eu un coup de cœur pour un modèle, donc d'une marque opposée. Et donc, elle a dit à son agent, débrouille-toi, je la veux. Voilà. Et cette raquette va peut-être lui faire gagner l'Open d'Australie.
Ah bah voilà, 15-40, balle de match. L'histoire de la raquette. Au final.
C'est une histoire de fou. C'est comme si Federer passait de. Enfin, je vais pas les passer. Non, balle de match. 15-40. Zabalenka, première balle, elle est dedans. Le retour est faute. Non, il était bon. Mais bon, Zabalenka a conclu derrière. Donc 30-40. Première balle de match sauvée. Non, j'avais le bon œil. Elle était bien faute. Mais bon, comme j'entends rien, vous parlez tellement que je ne peux pas tout faire.
C'est évidemment de notre faute.
C'est sourd.
30-40. Deuxième balle de match pour Madison qui ce serait fantastique pour elle. 29 ans. Hein, après son échec en finale chez elle à New York face à Sloane Stephens. Elle n'a jamais désespéré finalement, Sarah. Tu vois, il faut s'accrocher. Elle y croyait. Deuxième balle de match. Le retour est dedans. Oh, le retour est magnifique. Elle a un coup droit à mettre. Attention, ça défend bien côté Zabalenka. C'est gagné! Oh, c'est incroyable! Sur un coup droit extraordinaire, Zabalenka perd son titre. Victoire fabuleuse de Madison Keys. 6-3, 2-6, 7-5. Zabalenka est folle de rage. 31 coups gagnants pour Madison Keys. Je pense qu'elle va fondre en larmes en revenant vers sa chaise parce que c'est irréel ce qui lui arrive. Irréel. Elle serre la main de l'arbitre et là, elle va vers sa chaise. Et voilà, elle craque. Elle n'en revient pas. Elle a fait deux. Elle fracasse sa raquette, Zabalenka. Oh, c'est dingue. Il y a du drame dans l'air. Elle est en larmes, Madison Keys. Elle est en larmes. Elle va rejoindre son fiancé, Bjorn Fratangelo, qui sera bientôt son mari, qui était un bon joueur, qui avait même gagné Roland Garros chez les juniors. Mais là, c'est fantastique ce qui lui arrive. Ça lui tombe dessus. C'était pas prévu. Mais quel match. Elle sort en finale avec deux jeux absolument somptueux.
C'est rare de voir comme ça son adversaire casser sa raquette en pleine finale à la fin de cette rencontre magnifique. La reine Madison Keys qui vient donc de s'imposer dans cet Open d'Australie. C'est la première fois qu'elle remporte ce trophée et ce grand chelem. Il est 11h49, on se retrouve dans quelques instants pour le débat caché. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h51 de retour dans les GG du sport avec Sarah Pitkowski, David Douillet, Denis Charvet, Simon Dutin d'un direct à l'autre. Il y a quelques instants, la victoire de Madison Keys à l'Open d'Australie. Avant demain, la finale homme entre Sacha Zverev et Yannick Sinner. Il y a également la descente de Kitzbühel. La descente avec un Français sur la piste, Léna Marjac.
Oui, Nils Allègre, hein, le deuxième Français qui est en piste. Le premier, c'était Mathieu Bellet avec son dossard 3. Et pour l'instant, il est 7e provisoire à 1 seconde 65 de la tête de course. Il n'a pas fait une très très bonne descente aujourd'hui, Mathieu Bellet. Lui qui en plus s'est fait un petit peu mal hier. Il est tombé, il a chuté, il avait une petite douleur à la cheville. Aujourd'hui, ça peut être joué sur cette descente. Pour l'instant, la descente est menée par un Suisse, Alexis Monet, 25 ans seulement. Et juste derrière lui, c'est Marco Odermatt. Il n'y aura pas de victoire en descente ici à Kitzbühel pour Marco Odermatt. Et à l'instant, Nils Allègre vient chercher la 7e place provisoire à 1 seconde 58. Donc il est juste devant Mathieu Bellet. Nos deux Français donc pour l'instant qui ont pris le départ se classent 7e et 8e. Il y a encore 5 Français qui s'élanceront sur cette piste de la Strife. Piste évidemment mythique que l'on connaît et qui l'année dernière avait fait briller en français. C'était Cyprien Sarrazin évidemment. On pense à lui, c'est le grand absent. Lui qui a chuté fin décembre et qui a été opéré d'un hématome intracrânien. Voilà, tous ces Français auront une pensée pour Cyprien. Rien. Et donc on va attendre le passage des Sonos 5 autres tricolores dans quelques instants.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Allez, pour terminer cette émission, mes GG, nous avons 4 minutes pour un débat caché. Vous ne savez rien et pourtant il va falloir débattre. Le débat caché du jour, votre guet-apens, c'est ça.
Hey, come on, putain de sa race. Non, what the...
Ah, il faut aller se laver la bouche après cet extrait, mais ça y est, c'est fini les grossièretés. Les pilotes de Formule 1 ne pourront plus utiliser de gros mots face à la presse cette saison, sinon c'est amende, voire sanction sportive. La FIA a décidé cette semaine de durcir le ton après les épisodes Verstappen et Leclerc la saison dernière. Dans le détail, un gros mot en conférence de presse devant les médias, c'est 40 000 €. Au deuxième gros mot, c'est 80 000 €. Au troisième gros mot, c'est 120 000 € d'amende avec un mois de suspension et un retrait de points au championnat du monde. En septembre dernier, Max Verstappen avait choqué, provoqué la FIA. En conférence de presse, il avait déclaré en marge du Grand Prix d'Azerbaïdjan « Dès que j'ai commencé ces calibres, je savais que la voiture était à chier. Le Néerlandais avait été condamné à effectuer un travail d'intérêt général et ça n'avait pas du tout plu à l'intéresser. »
Je continuerai d'injurier. Si ce n'est pas dans cette pièce, peut-être ailleurs. Tout le monde dit des injures, un peu plus chez certaines personnes que chez d'autres. Cela dépend aussi de la langue que vous parlez. Je pense que beaucoup de gens disent beaucoup de mauvaises choses quand ils sont pleins d'adrénaline dans d'autres sports. Cela n'est tout simplement pas relevé. Je pense qu'il faudrait commencer par ne pas les diffuser. Cela aidera beaucoup plus que de mettre à mal les conducteurs. Par exemple, je ne pouvais même pas dire le mot « putain ». Ce n'est même pas si mal, n'est-ce pas ? La voiture ne fonctionnait pas. La voiture était foutue, ouais. Et puis excusez-moi pour le langage utilisé. Même si un enfant de 5 ou 6 ans regarde, il finira par dire des injures de toute façon. Soit ce sera à cause de ses parents, et s'ils ne lui permettent pas, il grandira, forcément, et dira des injures.
Une belle leçon d'éducation, cinéma Max Verstappen. Ces amendes, ces sanctions pour des grossièretés, est-ce que c'est ridicule ? Oui ou non, Simon Dutin ?
Oui.
Denis Charvet ?
Oui.
David Douillet ?
Oui.
Sarah Pitkowski ?
Ouais, je pense que oui.
Okay.
Attends, j'ai une question, c'est... En conférence de presse ou c'est aussi dans le casque quand il...
Dans le casque, ça passe pour l'instant. Ah, oui, à la radio, ça passe.
Sinon,
mais c'est en conférence de presse. Non, parce que c'est à chaud. Je pense qu'ils arrivent à tolérer. Ouais. Même s'ils doivent leur demander de faire attention. Rapidement sur ce débat, Simon Dutin.
Ça va dans le sens de notre histoire contemporaine. Voilà, il faut... donner l'exemple, l'exemplarité, et on arrive à se faire croire, comme le dit Verstappen, que c'est parce que il y a des enfants qui peuvent écouter, qui peuvent être influencés, voilà. Donc tu vois, on a interdit le ce qu'on appelle le taunting en NFL, tu sais, t'as plus le droit de chambrer ton adversaire. T'as plus le droit de chambrer ton adversaire quand t'as fait une belle action et que t'as marqué des points. On a interdit le trash talking en NBA quand tu veux déstabiliser en disant à ton adversaire, bah t'es je croyais pas si mauvais que ça ou des choses comme ça. En tennis, on a plus le droit de rien dire. Voilà, bon ben en Formule 1 pareil, et Max Verstappen a raison. Enfin, je dis, on vit dans un monde paradoxalement de plus en plus violent, où les gens se parlent de plus en plus mal, où les gens utilisent l'injure et l'invective de plus en plus souvent, mais en revanche, dès que ça passe à la télé ou à la radio, il faut surtout faire très attention.
Ah, si
c'est
y a
de,
si
c'est
y a
de l'hypocrisie.
Peut-être, voilà. Mais s'il y a quelques garde-fous, c'est pas plus mal non plus.
Oui, oui, s'il y a quelques garde-fous, mais est-ce que t'es obligé de mettre des sanctions comme ça?
Elles sont dures, hein, les sanctions.
Elles sont dures, elles sont sévères.
Et l'histoire de Verstappen, c'est comme si, en fait, ça sous-entendrait que chaque pilote qui vient en conférence de presse a un discours ou des propos injurieux. Il y a eu un écart, mais de là à en faire une règle avec des sanctions comme celle-là, enfin on voudrait que le sport donne l'exemple sur tout. En réalité, mais ils sont des êtres humains comme tout le monde, et arrêtons d'ériger le sport comme étant l'exemple.
Un jour, ils vont écrire leur réponse.
Moi, ma question,
ils vont leur donner les réponses.
C'est... David, est-ce qu'il y a une liste? Est-ce qu'ils vont éditer
une liste des mots,
d'injures?
Oui.
Voilà, ouais. Une liste de mots. Mais ça va être marrant parce que tu pourras avoir un pilote qui dirait aujourd'hui, je suis extrêmement courroucé à l'égard de mon écurie, n'est-ce pas? Puisque ma voiture, qui était de très mauvaise facture, avec des aléas divers et variés, avec des ingénieurs surpayés qui n'ont pas fait leur travail.
Bah voilà, il
n'est pas pénalisé, le gars.
Bah,
ouais, non, mais ça serait drôle, quoi.
Ça marche.
Ok, bon, voilà.
Ça marche.
C'était un petit débat, une petite information à vous donner cette semaine qui mange pas de pain. En tout cas, ce sont les nouvelles dispositions. Les pilotes sont prévenus pour la nouvelle saison de Formule 1 qui va débuter dans un peu plus d'un mois. Merci beaucoup les GG, David Douillet, Simon Dutin, Denis Charvet, Sarah Pitkowski. Mais ne t'inquiète pas, on se retrouvera demain évidemment pour les GG. Et puis promis, un jour on passera à 4h, à 5h, à 6h.
C'est comme ces petits gâteaux au chocolat qu'on adore là. Je vais pas citer la marque, mais est-ce qu'on pourrait pas les faire un petit peu plus longs, s'il vous plaît?
T'aimes bien les gâteaux, hein?
Ah, j'adore.
Je t'embrasse, mon David. On se retrouve demain à partir de 9h pour les grandes gueules du sport. 11h57, on se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC. À tout de suite.